Actualité.
Alexandre Dubé.
M. Dubé, bonjour.
Salut, Benoît.
Bon, alors, es-tu convaincu? Vas-tu t'acheter une voiture électrique au lieu de ton gros camion à essence qui boit comme un soulon, là?
Bon, je te dis, tu me fais une belle présentation aujourd'hui. Écoute, je suis dans la dernière année de ma location.
Bon.
Mon gros truck.
Il est temps.
Et j'explore mes options. Alors oui, bien sûr que l'électrique, dès que je peux avoir une autonomie intéressante aussi.
Il y en a, là.
Et une grosseur intéressante, c'est surtout ça. Moi, c'est que c'est un... Madame, tu sais que Madame Dubé a surnommé mon véhicule d'une certaine façon. Hein.
Comment?
Il l'appelle le camion à bébelle.
Ah oui, hein?
Alors, ça nous permet de transporter les vélos, les skis, éventuellement les paddleboards. Alors, ça prend une certaine grosseur.
Hmm.
Mais je suis très, très, très ouvert. Moi, je n'attends que ça.
Et pourtant, on dit que la grosseur n'a pas d'importance.
Ça dépend pourquoi.
Bilan COVID du jour. As-tu des bonnes nouvelles?
Oui, sors-moi de ça. Alors, 178 cas. On est sur la même tendance. Sur 25 000 tests, là, Benoît, alors le taux de positivité est très bas. Malheureusement, 8 décès supplémentaires.
Ah,
les
oui.
hospitalisations sont en baisse de 6 pour un total de 257. Et on est resté stable aux soins intensifs avec 60 personnes hospitalisées. On a vacciné plus de 77 000 doses selon le plus récent bilan.
Bon, puis on devance le plan de déconfinement, là. Ça s'accélère, cette patente-là.
Oui. Ah oui, on est encouragé là du côté du gouvernement Legault par l'amélioration soutenue de la situation épidémiologique. On le voit dans le bilan depuis plusieurs semaines déjà. Ça se reflète également aujourd'hui. Si bien que le gouvernement Legault devance donc l'arrivée de certaines régions au palier jaune. Et c'est le cas du Grand Montréal. C'est-à-dire que on élimine de plus en plus à chaque semaine des couleurs sur la carte du Québec. Alors, lundi prochain, on élimine le orange et la plupart des régions du Québec vont passer donc au jaune et même certaines régions au vert. Alors ça, c'est effectivement encourageant. C'est davantage de liberté. Maintenant, pour ce qui est pour le Grand Montréal, ça va se faire un peu avant la date initialement prévue là-dessus. Autre point important, c'était la question du masque là, dans les lieux de travail, parce que ça coïncide aussi avec le changement de palier de couleur. Il y avait un peu de confusion, et là, le directeur national de la santé publique, le docteur Arruda, promet de présenter une version beaucoup plus simplifiée de cette directive sur le port du masque, parce que dans les zones jaunes et vertes, le couvre-visage n'est plus obligatoire en milieu de travail si on réussit à maintenir une certaine distanciation physique. Donc là, il y en a qui pourraient peut-être avoir un peu de confusion à travers tout ça. Donc, ce que dit le docteur Arruda, c'est qu'ils sont en train actuellement de faire des travaux pour revoir la question du masque, pour apporter de la cohérence, ce qui parfois a fait défaut pendant la pandémie. Et des discussions qui sont en cours aussi avec la CNESST concernent, entre autres, bon, les milieux scolaires. On sait que les jeunes n'auront plus à porter le masque, là, effectivement, en classe. En classe, excuse-moi, mais est-ce que dans les autres déplacements dans l'école, ce sera toujours nécessaire? Bref, ils vont nous revenir avec des clarifications. Je pense que c'est important là, dans le dernier droit, surtout avec la chaleur aussi, on l'a eu.
Bon, écoute, c'est important comme la lutte contre la violence conjugale, puis les réchauffements climatiques et la violence, tu sais, le racisme, les balles de finissant. Sacramouille, revenez-en, réglez ça, puis parlons d'autre chose, là.
Il y a quand même plusieurs jeunes. Réaction mitigée d'abord. Là. On a entendu plusieurs jeunes au cours des dernières semaines demander un vrai bal de finissant. Alors oui, leur souhait a été exaucé, mais un peu plus tard qu'à l'habitude. C'est-à-dire que on a décidé du côté du gouvernement que ce serait permis à compter du 8 juillet. On parle d'un bal à l'extérieur d'un maximum de 250 personnes, sans distanciation et sans masque. Pourquoi faire ça aussi loin? Ben, ultimement, le calcul que la santé publique fait, c'est qu'une bonne partie des ados vont avoir été vaccinés avant le 24 juin. Et ensuite, ben, on compte 2 semaines pour développer une bonne immunité. Ça nous amène au 8 juillet. Mais bon, il y a eu des réactions mitigées. Trop peu, trop tard pour plusieurs. Le milieu scolaire est pas très chaud à l'idée non plus parce que, bon, en juillet, le personnel est en vacances, les élèves aussi. Il y en a qui disent que c'est irréaliste de modifier les plans à la toute dernière minute. Est-ce que les parents peuvent s'impliquer davantage dans l'organisation? Bref, on verra bien, mais ce sera quand même un défi d'organisation pour les écoles qui disent ne pas avoir été consultées dans la décision et dans la façon de faire et qui n'auront qu'un mois pour réviser encore leur plan.
Mais au lieu de manifester, pourquoi les jeunes n'organisent pas leur bal de finissant? Au lieu de demander, depuis quand ils nous demandent d'organiser leur party?
Un bon point. Je me souviens pas, moi, dans mon temps. L'école l'organisait, j'imagine, vous avez quoi, ça fait longtemps.
Là, non, j'avais été élu président de Polyjeunesse, moi, là.
Okay? Ah oui?
Ouais, je m'étais pas présenté.
Vous avez caché ça?
Il m'avait élu, j'avais organisé le bal de finissant, j'étais pas allé parce que j'aime pas les parties, mais je l'avais organisé, c'est toujours bien pas compliqué.
Tu l'as organisé, mais t'es pas allé à ton propre
party. Non, ça me tentait pas. Mais c'est pas long, c'est pas difficile à organiser un bal de finissant.
Non, c'est un point important.
Tu le fais à l'extérieur, tu commandes un chapiteau, tu mets quelqu'un, la musique aujourd'hui, tout se fait par ordinateur, tu branches ça sur des boombox, c'est réglé, puis de toute façon, ils sont mineurs, il n'y a pas d'alcool.
Ah ben, j'ai l'idée, Benoît.
Quoi?
Pourquoi le gouvernement du Québec ne te mandaterait pas, toi, d'organiser le bal définissant des jeunes?
Je le ferais. Sais-tu comment je ferais ça? Sais-tu comment je ferais ça? Je leur dirais, organisez-vous. Bonne chance.
Mais non, mais là...
On va passer à des sujets plus sérieux.
T'as de l'expérience, là.
Ben oui, ça fait juste 45 ans, là, tu vois. J'en souviens même plus. Bon, mais ça a l'air que le bal était très cool. Tout le monde était très content.
Ben, sûrement.
Ben oui. Québec... Mais je t'ai pas allé, ça me tentait pas. Le Québec semble se diriger vers le passeport vaccinal. Ça, c'est pas très populaire, hein?
Ben, ça dépend auprès de qui.
Doug Ford n'en veut pas.
Ouais, non, effectivement. Effectivement que il y en a qui sont peut-être un peu plus contre cette idée-là, mais dans la population en général, je dirais que les avis sont partagés.
Ah
mais
bon,
à la lumière de ce qu'on entend, oui, le Québec semble se diriger vers la mise en place d'un passeport vaccinal. Ça pourrait donner des avantages à ceux qui ont reçu les deux doses de vaccin, comme pouvoir voyager à partir du mois de juillet. Il y a des provinces actuellement qui discutent avec Ottawa pour la mise en application de tout ça. Est-ce qu'on pourrait se diriger vers une réouverture des frontières avec les États-Unis, par exemple, avec les autres provinces, comme l'Ontario? Du côté du Québec, le ministre de la Santé, Christian Dubé, demande aux 1,6 million de Québécois vaccinés qui n'ont pas encore reçu leur fameux code QR, leur preuve de vaccination numérique, d'attendre encore une semaine avant de pouvoir la réclamer. On nous dit que jusqu'à maintenant, à peu près 4 millions de personnes vaccinées ont reçu le fameux courriel ou le fameux texto là, qui permet de télécharger leur preuve de vaccination. Mais ceux qui ne l'ont pas encore reçu, bientôt vont avoir accès à un outil en ligne qui va leur permettre de recevoir leur code QR. Et Christian Dubé pense effectivement que ce fameux code-là pourrait être très utile pour voyager. Alors, tu comprends que c'est des discussions qui sont en cours aussi, tant à l'échelle provinciale, mais à l'échelle fédérale aussi, à l'échelle canadienne.
As-tu reçu ton code QR? Moi, je l'ai eu. Ben, Pierre, je parlais à Pierre Nantes ce matin. Lui non plus, il l'a poursu.
Toi, tu l'as pas eu non plus?
Non.
Ouais.
Okay. Et là, Marie a dit qu'il y a une liste noire là au gouvernement. si t'as parlé contre M. Arruda, t'as pas de code QR.
Intéressant, cette hypothèse-là, Mario. C'est peut-être ça.
On va
plus voyager.
Non, je regarde. C'est quand même... Je veux juste c'est aller au Nouveau-Brunswick, de toute façon. Je m'en fous. C'est pas drôle, là. Les deux joueurs des Tigres de Victoriaville, là. C'est pas fort, là.
Alors, c'est un nouvel choc, là, dans le monde du hockey junior au Québec. Deux joueurs des Tigres de Victoriaville qui ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle. Je te relate les faits allégués qui se seraient déroulés là après la victoire du club à la Coupe du Président. C'est samedi soir, donc ça se serait passé à l'hôtel Entourage sur le lac à Lac Beauport. C'est là que l'équipe était hébergée pendant la bulle de la LHJMQ. Alors, selon les sources consultées par notre bureau d'enquête, les joueurs venaient tout juste de revenir au centre de villégiature, semble-t-il, après leur gain, quand une adolescente et un joueur des Tigres se seraient alors fait la cour. Et toujours selon ce qu'allègue le bureau d'enquête, l'adolescente aurait consenti à une certaine forme de rapprochement avec le joueur. Mais lorsqu'elle est retournée à la chambre du joueur, ben les choses se seraient gâtées lorsqu'elle a constaté qu'un deuxième joueur se trouvait aussi dans la chambre. Vous comprenez que, bon, ils ont des co-chambreurs, là... Au hockey. Alors, à ce moment-là, l'ado aurait retiré son consentement et aurait refusé d'avoir des relations sexuelles avec le joueur en question. Et des sources dans l'entourage de l'équipe démentent cette version des événements-là quant au consentement de l'adolescente. Mais les enquêteurs de la SQ, de leur côté, Benoît, soulignent vraiment que l'adolescente a livré une déclaration très crédible. Donc, résultat de tout ça, ben, les policiers ont arrêté les deux joueurs en question en raison du sérieux des soupçons qui planent contre eux. Et là, on comprend dans les circonstances que l'identité de la victime présumée doit être protégée, tout comme celle des joueurs, parce que des accusations formelles n'ont pas encore été déposées, mais c'est un dossier qui fait grand bruit en ce moment dans le monde du hockey.
Puis faut le rappeler, le consentement, c'est non. Ça peut être non n'importe quand, mais quand c'est non, les gars doivent respecter ça. Ils doivent respecter non. Elle a changé d'idée, c'est non. C'est non. Il y en a pas d'agression, il y en a pas, tu le forces pas, rien. Et non. Ça, nos gars doivent comprendre ça. Quand c'est non, c'est non.
Il y a énormément d'éducation à faire, Benoît, encore là-dessus, sur la notion de consentement. T'as entièrement raison.
Encore des ennuis, tiens, il y a peut-être un lien à faire là, pour Gilbert Ozon.
Ouais, sauf que cette fois-là, c'est pas des ennuis qui impliquent des questions de harcèlement ou d'agression sexuelle ou d'inconduite sexuelle. Ça touche l'immobilier, je t'explique. C'est un Montréalais qui a acheté sa luxueuse maison d'Outremont pour 5,1 millions de dollars en 2019. Estime qu'il s'est fait avoir dans cette histoire-là. L'acheteur, c'est un homme d'affaires, il s'appelle Pierre Lapointe. Il dit avoir découvert des vices cachés et demande maintenant un remboursement de 400 000 dollars à Gilbert Ozon et à son ex-femme. Selon le poursuivant dans cette histoire-là, le couple ne lui aurait pas révélé que la maison avait déjà été incendiée et que ce feu-là aurait endommagé, entre autres, le système de chauffage de la résidence. Mais tu sais, quand tu accumules les poursuites et les tuiles, ben ça en fait plusieurs qui tombent sur la tête de Ozon. On sait que il fait face à des poursuites civiles qui totalisent déjà 5,5 millions de dollars avec le dépôt récent d'une procédure par une troisième présumée victime qui l'accuse de l'avoir violée. Ça, c'est en 88. Et là, il y a cette autre poursuite-là pour vice caché dans une résidence cossue d'Outremont.
Il aurait pas menti, là. Je peux pas croire ça. Et commémoration à London, en Ontario.
Ouais, en conclusion, une cérémonie hier soir qui a réuni des milliers de personnes pour dénoncer la haine envers les communautés musulmanes. Ça se passait à la mosquée de London, en Ontario. Il y avait une veillée organisée en mémoire de ces quatre membres d'une même famille qui ont été tués dans un attentat islamophobe dimanche soir. Il y a eu des prières, des pleurs. C'était vraiment très, très, très émotif. Mmh. Et le premier ministre Trudeau a encore une fois condamné cet acte de violence-là. Il a martelé que l'islamophobie et le racisme sont réels. Il a promis aussi d'agir pour mettre fin au racisme et à l'islamophobie. Doug Ford aussi a ajouté que le racisme ne serait pas toléré. Et quant à l'auteur présumé de cette attaque-là, Nathaniel Veltman, il sera de retour en cour demain.
Révoltant, pis c'est dégueulasse. Mais bon, on se laisse là-dessus. Alexandre, on se reparle demain.
À demain, Benoît.